vis-à-vis de ces gens-là une terminologie qui est toujours reliée à une structure religieuse. Par exemple, il emploie la terminologie pour répondre à ces objections, la terminologie de shirk. Shirk. Alladina yushrikuna billahi. Shirk. C'est associer des divinités à Dieu. Associer des divinités, c'est-à-dire être polythéiste. Vous voyez par conséquent que la Mujadala mélange des considérations matérielles de bien, mais aussi des considérations religieuses. Alors là, c'est la discussion entre les Arabes, pour qui les divinités, la multiplicité des divinités était quelque chose de normal. Il y avait des Arabes polythéistes. Et puis, l'attitude nouvelle que le Coran instaure vis-à-vis de ces gens-là, en disant, votre attitude polythéiste n'est pas une attitude intelligente. Elle ne correspond pas à la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule puissance, et cette puissance n'est pas visible. On ne peut pas la représenter dans une statue. On ne peut pas la représenter dans une idole. Bon, là, c'est un débat purement religieux, mais c'est un débat religieux qui touche à des conceptions que les gens avaient depuis longtemps et auxquelles, évidemment, on ne renonce pas facilement. Et comme je vous l'avais dit au début de l'année, la religion qualifiée de polythéiste, c'est aussi une religion. Il ne faut pas la traiter comme étant une simple rêverie ou quelque chose qui ne correspond pas à un équilibre culturel. Et aussi un autre mot polémique, bon, il y a le mot char et sou, c'est-à-dire le mal, qui s'oppose à khayr ici. Khayr, où est-ce que je l'ai mis? Bir, ihsan, ma'ouf, oui?
Oui.
Bon, vous pouvez l'ajouter, je l'ai oublié. Khayr, c'est un mot qui est. Et khayr s'oppose à char, le bien et le mal. Et puis un autre mot polémique important. C'est le jahl et le ilm que j'ai mis ici. Ilm. Et puis jahl ici. C'est-à-dire le savoir, c'est le savoir, et le jahl, l'ignorance. Mais ces deux mots, jahl et ilm, doivent eux-mêmes être analysé exactement comme je viens de le faire pour mal. C'est-à-dire qu'il faut extraire ce mot-là et faire exactement la même chose. Quel est le réseau lexicologique de ilm? Et quel est le réseau lexicologique de jahl? Vous voyez que les choses ne sont pas simples. Parce que il ne faut surtout pas dire le ilm c'est la science et le jahl c'est l'ignorance. Ça, si vous dites ça, c'est faux et vous n'y comprenez rien, et c'est avec des approximations de ce type malheureusement que l'on présente généralement les enseignements du Coran et l'islam, etc. Alors que si on fait une analyse sémantique fine, il faut revenir aux emplois de ces mots là dans le Coran comme je viens de le faire pour mal, à ce moment là nous verrons apparaître une notion de ilm dans le Coran qui ne correspond pas du tout à notre notion de savoir, de science, etc. Pas du tout. Parce que, nous allons voir, c'est une notion, en réalité, qui est chargée d'adhésion affective à toutes les notions de Dieu, de vie dans l'au-delà, de paradis, d'enfer, qui sont toutes des notions symbolique, des notions de représentation par l'imagination et non pas des notions qui s'adressent à l'intellect, à l'intelligence, à la raison. C'est ça le ilm dans le Coran. Ça n'est pas des notions qui s'adressent à l'aql. Alors vous voyez que ça change complètement. Ça n'est pas du tout le ilm que nous connaissons. Alors j'insiste beaucoup sur cela, parce que dans tous les ouvrages arabes que vous pouvez lire, tous, on vous dira l'ilm, c'est le Coran, c'est la science. L'ilm, ou l'ulum, c'est la science. Et puis, on y va. Il y a la physique, il y a la chimie, il y a la biologie, il y a la science atomique, il y a tout ce qu'il faut. Et même des Français écrivent des choses comme ça. Un certain docteur Ducaille, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu ce nom-là, a écrit un livre sur la science et le Coran. Eh bien, il dit ça. C'est un chirurgien français. Mais c'est un chirurgien français qui a fait une opération financière parce que il a senti là un filon qui marche extrêmement bien. Et effectivement, il a dit des choses qui ont plu énormément, parce que c'est très apologétique. Ça plaît énormément aux médecins, ça plaît énormément aux musulmans qui malheureusement sont démunis de moyens de défense, de moyens critiques. Et je ne suis pas sûr que parmi vous, il n'y en aurait pas qui tomberait dans le panneau.
C'est comme l'histoire. Comme
on est... Et effectivement, ce livre a eu un succès fou. Depuis l'Indonésie jusqu'au Maroc, il tire à des millions d'exemplaires. Je vous cite ce fait pour vous montrer les ravages que peuvent faire des présentations apologétiques et idéologiques. Parce que le Coran joue dans les sociétés musulmanes actuelles un rôle idéologique considérable, de premier plan, dans tout le monde musulman, tous, sans exception, même ceux qui à l'extérieur apparaissent comme très socialistes, progressistes, tout ce que vous voudrez. Partout, le Coran joue un rôle idéologique fondamental, et il joue un rôle idéologique à l'aide des confusions de ce type. On extrait ilm, on vous dit ilm. Parfait. Il y a tous les ulum dans le Coran. Et tout a été inventé et prédit dans le Coran parce qu'il y a le ilm dans le Coran. Alors que, encore une fois, si nous faisons une analyse lexicologique comme nous venons de le faire pour le mot ilm, on trouve que le mot ilm n'a pas du tout les connotations modernes et rationalistes que nous lui donnons aujourd'hui. Il a davantage de connotations qui relie à l'imaginaire, au fonctionnement de l'imaginaire, et non pas au fonctionnement de l'intellect. Ce qui donne deux registres de connaissances différents. L'imaginaire aussi est un registre de la connaissance. Attention, je ne dis pas que c'est le registre moderne de la science qui est valable et que l'autre ne voit rien. Ce sont deux registres différents. Mais encore faut-il, par une analyse sérieuse, faire apparaître la différence de ces deux registres psychologiques. Le peintre, le musicien, le poète, etc., ils ont, eux aussi, un registre de connaissances qui se fonde sur l'imaginaire, la sensibilité, l'affectivité. Le langage religieux procède de la même façon. Mais alors, ne mélangeons pas les deux ordres comme on le fait. Alors voilà pourquoi il faut bien distinguer, et encore une fois, en particulier pour ces deux mots-là, ils méritent la même analyse que celle que je viens de faire. Mais en réalité, tout le vocabulaire coranique mérite cette analyse. Et par exemple, un des autres mots-clés qui mérite l'analyse, c'est la racine aql. La racine, hein? Attention, j'ai dit la racine. Je n'ai pas dit le mot, le substantif aql, car le substantif aql ne se trouve pas dans le Coran. Il n'est pas employé dans le Coran. Le mot aql dans la forme aql n'existe pas. La seule chose qui existe dans le Coran, c'est le verbe à l'inaccompli. Mais il n'y a pas le mot aql. Cherchez-le, vous ne l'y trouverez pas. Eh bien, ça n'a pas empêché tous les commentateurs et tout le monde de dire le Coran, c'est la raison la plus la plus moderne et la plus poussée. Tout le langage coranique est un langage rationnel, vous enseignera-t-on. Et il y a toute la raison qui est déjà parfaitement à l'œuvre dans le Coran. Alors que « la ya'qiluna » ne veut pas dire « ils ne réfléchissent pas » au sens de appliquer son intellect à faire une analyse comme nous l'entendons aujourd'hui. Cela veut dire « aqla ya'qilu » « l'aql » dans le langage bédouin, ça veut dire « la corde ». Une corde qui sert à lier. À lier le pieu de la tente, à attacher, lier les chevaux. Ou le chameau. L'aql, c'est ça. Aql himarahu. Ça se dit encore dans le langage arabe dialectal, qui a conservé le sens ancien. Alors, la yaqilun, ça veut dire qu'ils ne font pas le lien entre l'ayat allati nadribuha linnasi, c'est-à-dire qu'ils ne font pas le lien entre les actes que moi, Dieu, je fais dans la création. Les ayats, ce sont les actes de Dieu dans la création. Ils ne font pas le lien entre ces actes-là et la signification de ces actes. La signification de ces actes, c'est que chacun de ces actes manifeste l'existence de Dieu. Mais autrement dit, ils ne font pas le lien entre la réalité du monde que j'ai créé et mon existence à moi, Dieu.
Et pour faire ce lien, il faut réfléchir, non?
Non, c'est un lien qui s'opère psychologiquement dans le qalb. Analysez le mot qalb dans le Coran. Le qalb comme centre psychologique. Donc, le mot qalb est employé dans le Coran, je peux vous le dire.
Donc, vous niez l'absence de toute réflexion?
Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je ne nie pas l'absence. Je la ramène simplement à sa juste mesure. Je vais vous le dire. Où est-ce que ça se trouve le mot arabe? Le mot qalb.
Il dit le qalb lorsqu'il dit que des gens ne peuvent pas croire. Pour nous, par exemple, ils sont fermés.
Voilà, qalb. Le mot qalb dans le Coran est employé 132 fois. Voilà l'analyse, toute l'analyse de lexicologique du Coran. Tout le Coran est analysé ici. Et vous voyez que cette analyse présente le vocabulaire coranique d'abord dans une structure, ce que j'appelle une structure enveloppante, c'est-à-dire une structure qui domine l'ensemble des autres emplois, et puis la structure enveloppée. La structure enveloppante comprend un certain nombre de racines, comme par exemple Allah. Allah, le mot Allah, linguistiquement parlant, est employé 2697 fois. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous mesurez l'importance statistique. Autrement dit, le mot syntaxiquement parlant, tous les énoncés du Coran ont pour sujet, pas tous, mais un très très grand nombre d'énoncés du Coran ont pour sujet Allah. En pour agent Allah. Autrement dit, tout est rapporté, syntaxiquement parlant, à un agent qui domine le fonctionnement du discours. Et vous avez un certain nombre d'autres termes, comme wahy, comme nazl, tanzil, comme rasala, risala, etc., nubuwa, al-haq, etc., qui interviennent également un très grand nombre de fois et qui conditionne le fonctionnement sémantique des autres termes qui interviennent dans ce que j'appelle la structure enveloppée. Mais vous lirez ceci bientôt dans un article qui paraîtra prochainement.
Où ça?
Dans un livre qui s'appelle « L'étrange et le merveilleux ». L'étrange et le merveilleux dans la civilisation islamique classique.
Quelle édition?
Jeune Afrique.
Prochain numéro?
Non, pas le journal Jeune Afrique. C'est l'édition, vous m'avez demandé.
Ah.
Il y a des éditions Jeune Afrique,
oui, oui,
qui éditent des livres et de très beaux livres.
C'est de Maroc, vous, de l'AMP?
Oui. Oui.
Comment s'appelle?
Les Franges et le Merveilleux dans la civilisation musulmane classique. Alors, justement, dans ce livre-là, vous verrez, l'article dont j'extrais ce tableau s'appelle Peut-on parler de merveilleux dans le Coran? Peut-on parler de merveilleux dans le Coran? Qu'est-ce que c'est que le merveilleux? Qu'est-ce que c'est que le merveilleux?
C'est les...
qui sort de l'entendement humain.
La visite, non?
Qu'est-ce que c'est que le merveilleux?
Qui sort du réel, c'est vraiment de l'imaginaire, c'est qu'il y a d'imaginaire. Enfin, rien à voir avec le réel.
Ok, n'a pas des bases rationnelles.
Oui. 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 Oui, il ne faut pas confondre, il y a plusieurs choses là. Il y a le merveilleux, il y a le fantastique aussi. Alors, le merveilleux, c'est tout ce qui se passe, oui, comme vous l'avez dit, dans le monde de l'imaginaire. Mais alors, il faut considérer le monde de l'imaginaire non pas comme un monde inférieur, un monde infériorisé par le monde du rationnel. Car dans notre civilisation, justement, qui se prétend très rationalisée et qui prétend maîtriser les envolées de l'imagination créatrice, eh bien, nous avons tendance à mépriser, à marginaliser, à inférioriser tout ce qui a trait à la création imaginaire. Et le merveilleux est une dimension psychologique qu'il faut traiter comme telle, sans a priori rationaliste. Et si nous avons fait un colloque au Collège de France sur ce sujet-là, c'est un colloque au Collège de France, ça s'appelle « L'étrange et le merveilleux » dans la civilisation. C'est justement pour réhabiliter la notion de merveilleux comme un espace psychologique où les hommes ont conçu et produit des œuvres d'art et où les hommes, par conséquent, se sont réalisés d'une certaine façon, que la raison raisonnante, logicisante, a encore une fois marginalisé, voire écarté, en présentant cela comme de créations fausses, des élucubrations, etc. C'est donc tout le monde de l'imaginaire que l'on commence actuellement, en historien et en psychologue, à étudier de façon sérieuse. Et en particulier le merveilleux, c'est l'espace adéquat où se développe la conscience religieuse. Toute conscience religieuse. Si vous enlevez l'espace du merveilleux à la conscience religieuse, il n'y a plus de religion. Pourquoi y a-t-il, justement dans les sociétés occidentales aujourd'hui, un recul des religions? Parce que la dimension du merveilleux est marginalisée, refoulée par la raison impérieuse, scientifique, qui analyse et qui dit « ça c'est réel, ça n'est pas réel ». Vous voyez que c'est un problème qui va très loin. Et alors justement, le problème est de savoir dans un texte comme le Coran, quelle est la part du merveilleux et quelle est la part exacte du rationnel. Car il y a du rationnel dans le texte coranique. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien, comme vous avez dit là, je crois, tout à l'heure. Il y a du rationnel. Mais dans quelle mesure? Et quel est l'espace dominant? Est-ce l'espace du merveilleux ou l'espace du rationnel? Ça, c'est une investigation historique et une investigation linguistique, sémantique, dans le texte coranique. Voilà des choses sur lesquelles j'insiste, je passe beaucoup de temps sur ça, bien que je sache que notre programme est très vaste, mais si j'arrive à vous faire comprendre tant soit peu les problèmes très importants qui se cachent derrière le texte coranique et qui sont des problèmes qui dépassent de beaucoup le Coran lui-même. Car ce que je vous dis pour le Coran, ça s'applique à beaucoup d'autres textes. Ça s'applique à tous les textes du Moyen-Âge. Par exemple, toute la littérature médiévale. Ça s'applique à tous les textes religieux de l'humanité. Car le Coran n'est pas l'unique texte religieux de l'humanité. C'est ça l'envergure du problème.
Voulez-vous réhabiliter la religion par ce rôle-là ?
Je veux que l'on comprenne. Je ne veux rien réhabiliter, je ne veux rien avantager, je veux que l'on comprenne et que l'on pose des problèmes correctement et non pas des problèmes de travers en disant que, comme je disais tout à l'heure, le merveilleux c'est pour les gens qui sont ignorants, les masses populaires, comme diraient certains, qui n'ont pas été à l'université pour bien manier les concepts et la raison. Ça, c'est faux, ça.
Effectivement. Bon, enfin, je peux prendre la parole.
Oui.
Pour la vision scientifique, vous avez dit que les gens, enfin, les progressistes ou la science dit que ça, c'est de la littérature, le merveilleux n'existe pas, enfin, ils ont l'air un peu de s'en foutre. Et ce... contenter de démontrer par l'aide de la science ce qu'ils disent, ce qui, enfin, ils essayent de prouver, de démontrer scientifiquement. Mais la science ne se contente pas uniquement d'analyser, elle progresse. Malheureusement, l'être humain est limité, mais la science progresse, elle ne reste pas. C'est là que j'ai pas très bien compris votre idée. Alors, je ne vois pas comment vous dites la conception scientifique de la religion, de la chose merveilleuse. Je n'ai pas très bien saisi votre propos.
Eh bien, le merveilleux continue d'exister comme une dimension psychologique, en ce sens qu'il y aura toujours des hommes qui seront des artistes, qui travailleront dans le plan artistique, comme il y aura des hommes qui continueront à travailler dans le plan scientifique. Mais ces deux plans-là, il ne faut pas les opposer l'un à l'autre, comme étant des plans contraires, ou contradictoires, ou comme étant un plan supérieur à l'autre. Il faut les comprendre tous les deux comme des manifestations, toutes les deux valables dans son ordre, chacune dans son ordre, de l'être humain qui se spécialise dans telle ou telle direction, c'est tout.
Je peux vous donner un exemple, par exemple, de l'icône, de l'art de l'icône. Ben, ils disent qu'ils sont inspirés par un être supérieur pour faire cet art-là, oui. Alors que c'est leur propre imagination.
Oui, d'accord, mais ça, l'art de l'icône à Byzance, ça s'est passé exactement comme au temps de l'islam, ça dépend des cadres culturels où se réalise l'imagination. L'imagination de l'artiste aujourd'hui ne fonctionne pas comme l'imagination de l'artiste au Moyen-Âge. Parce que la culture et les références culturelles sont différentes. Autrement dit, il y a toujours une interpénétration entre les progrès, si vous voulez, de la science et les progrès de la réalisation artistique.
Est-ce qu'on peut réduire la lutte entre les deux notions de développement et sous-développement à une lutte entre monde imaginaire, monde merveilleux, à savoir le clair monde, et un monde rationalisé, le monde occidental? On peut réduire
sûrement pas, mais il y a sûrement une influence. Il y a sûrement des rapports. C'est évident. Parce que si vous développez le rationalisme, vous développez nécessairement la technique. Et donc la maîtrise des éléments naturels. Tandis que si vous développez l'imaginaire, vous développez le sémantique, c'est-à-dire les significations, les symboles, vous enrichissez votre contemplation, le monde des significations, mais cela, évidemment, ne vous permet pas de prendre un Boeing 747.
C'est pour ça que moi je demande si le rationnel ne bat pas en retrait.
Je viens de dire qu'il faut que les deux puissent se réaliser.
Oui, il faut que l'un comprenne l'autre.
Oui, c'est ça. C'est ça. Mais il y a toujours eu, en réalité, lutte entre l'imaginaire
et le rationnel.
Toujours lutte. Ce qui est extrêmement déplaisant dans ce cours, c'est que lorsqu'on discute de problèmes importants et que l'un d'entre vous prend la parole, c'est fini. Il y en a un certain nombre qui décrochent. Ils mènent leur petite barque tout seul. Ça ne les intéresse plus du tout. Hein, mademoiselle et son voisin barbu, est-ce que vous pouvez nous faire profiter de votre conversation si intéressante? Tout le monde aimerait en profiter. Lorsqu'on en est, on est nombreux, comme nous le sommes, ne croyez pas que l'on ne vous entend pas. Même si vous chuchotez. Et j'ai déjà dit plusieurs fois que cela est infiniment désagréable. À tout point de vue. Si vous avez des choses à vous dire, vous pouvez vous les dire en sortant. Mais ici, nous serions tous heureux d'entendre ce que vous venez de vous dire entre vous. Et qui doit être sûrement très intéressant, puisque vous n'avez pas résisté à la tentation de le dire. Je vous en prie. Allez-y. Eh bien alors. Quoi? Quoi? Eh bien, vous troublez tout le monde. Et les questions qui viennent d'être posées étaient des questions intéressantes, qui intéressaient tout le monde. Ça n'est pas parce que l'un d'entre vous prend la parole que ça n'est pas intéressant. Au contraire, vous devriez la prendre plus souvent. Je souhaite que vous la preniez plus souvent, mais devant tout le monde. C'est comme ça que marche un bon cours. Je ne conçois pas de cours autrement.
S'il vous plaît, la science en tant que science n'a pas de place dans l'analyse lexicologique du Coran. La science actuelle,
est-ce qu'on la comprend maintenant?
La linguistique actuelle s'intéresse considérablement à ce que je viens de faire. Seulement les arabisants en particulier, sont des paresseux et des gens attardés. Je le dis à haute voix.
Parce que tous les livres qui ont été faits par des orientalistes qui vraiment sont considérés comme des hommes extrêmement forts et personne n'avait droit à la parole.
Mais mademoiselle, ce n'est pas du...
Que les petits arabisants à notre niveau ont
non, non.
Faire du grand mal.
Hein. Oui, mademoiselle.
Au haut niveau,
mademoiselle, je souscris à ce que vous venez de dire, et quand je dis les arabisants, je ne parle pas de vous. Vous êtes jeune, vous débarquez et puis vous avez toute la vie devant vous. Je parle justement des arabisants qui sont en place.
Oui, c'est ça.
Oui. Ce sont des marginaux, intellectuellement parlant. Pas tous. Non. Il y en a qui essayent de se démarginaliser et d'entrer dans la bataille scientifique, de recherche scientifique. Il y en a. Et si j'insiste comme je le fais, c'est précisément pour déjà vous qui débarquez, qui commencez, vous mettre en appétit. Et c'est pour ça que ça m'énerve lorsque j'essaye de vous dire des choses qui devrait vous mettre en appétit. Je ne peux pas supporter de voir que on attend que l'heure soit terminée ou bien ça n'est pas intéressant, etc. Vraiment, si ça ne vous intéresse pas, c'est la porte est ouverte.
Il faut faire un drame, c'est quand même.
Comment?
Je me disais quand même, c'est
un peu. Non, ça se produit chaque fois.
Et
ça se produit à chaque cours.
Et donc, dans chaque cours, il y a une étude statistique, il y a des gens qui s'intéressent plus que d'autres. Ça a été toujours comme ça. On peut tous devenir des.
Bon, alors.
Mais on peut devenir ouvrier de la classe intellectuelle.
On peut être ouvrier. On peut être ouvrier. Et pour en revenir à la linguistique, j'insiste beaucoup sur la nécessité pour les arabisants, vous, outre l'UV de linguistique à laquelle vous faisiez allusion, bon, l'UV de linguistique qu'on vous impose pour la langue arabe, d'accord. Mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux que vous alliez à l'UER de linguistique et d'études françaises pour que vous fassiez, à titre d'UV complémentaire, des UV d'analyse de texte. Comme ça. Et c'est ça, c'est là que vous allez apprendre comment lire un texte d'une façon moderne avec des techniques d'analyse linguistique. Les Arabes ne veulent pas faire cela.
Mais pourquoi on n'a pas ça dans les sens si, arabes?
Parce que dans votre pas, cursus, comment
on
veut?
On a certainement, mais c'est linguistique, une étude de...
Vous avez des UV complémentaires pour la licence d'arabe. Et ces UV complémentaires, je vous dis, il faut les choisir en priorité, quelques-unes en histoire, chez les historiens, les vrais historiens, pour apprendre la méthode historique. Car ce que je viens de vous dire, pour l'analyse linguistique du Coran, il faut en même temps une analyse, une méthode historique. Si vous n'êtes pas historien, vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez mélanger les périodes historiques. Pourquoi je vous dis, Aql n'existe pas dans le Coran? C'est une donnée historique. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'utiliser la notion de Aql que les philosophes vont utiliser à Bagdad au 8e siècle, au 8e siècle et au 9e siècle. Je n'ai pas le droit de la mettre en arrière pour lire ensuite le Coran. Et ça, c'est l'histoire. C'est la méthode historique. Ah bon, donc, vous avez des UV d'histoire qui manquent beaucoup aux arabisants et des UV de linguistique, d'analyse de texte. C'est une formation absolument nécessaire aux arabisants pour qu'ils soient des linguistes modernes, travaillant de façon moderne dans les études d'arabe et non pas d'une façon... la tradition, traditionnalisme. Dieu sait s'il est fort.
Je voudrais insister sur le mot Aql qui n'existait pas avant cette émission. Mais je suppose quand même, au temps de Mohammed et même avant, il existait des gens, ce qu'on peut appeler, qu'on a maintenant actuellement des fous. Est-ce qu'il opposait à la folie un autre mot? Quel est ce mot-là alors?
Comment les fous?
Il existait des alignés mentaux. Voilà.
Des alignés mentaux.
Voilà. Qu'est-ce qu'on a opposé à la notion d'aliénation mentale?
La notion d'aliénation mentale, qu'est-ce qu'on a opposé?
Comme ça, on oppose à la notion d'aliénation mentale.
Les Arabes qui sont opposés, je pose une question.
Maintenant, on dit
est-ce
raison.
Que Arabes, existe, oui. Parce qu'Arabes, pour moi, maintenant.
Mais vous savez que la notion de fou a elle-même une histoire.
Mais il existait déjà des aliénés mentaux avant.
Fou pouvait être appelé, et d'ailleurs, il est encore appelé dans certaines régions d'Afrique du Nord, par exemple, Boudali. El Boudali. Votre nom, c'est Boudali. C'est une simple
Boudali.
Boudali. La Boudali.
Boudali.
Eh oui.
Boudali.
Boudali. C'est-à-dire que c'est un monsieur Mahlout Firasou. Mais, c'est une folie respectable. C'est une folie qui procède d'une sagesse profonde. Et le Boudali ou le Boudali, on l'écoute.
Derwish. C'est quelqu'un. C'est bien précis, monsieur. Oui. C'est pas le fou.
Il n'y a pas de véritable
fou.
Il n'y a pas de véritable
fou. Il y a de véritable fou parce que le fou est le plus important par rapport à une norme sociale qu'on a choisie. Dans cette norme sociale,
le fou est produit par une société. À partir du moment où il y a de l'art,
c'est une produit par une société.
Je ne sais pas si vous avez un philosophe, par exemple, si vous avez un philosophe, 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 vous avez un
philosophe, vous avez un philosophe, vous avez un
philosophe, vous
avez un
Bon, alors
vous avez promis la dernière fois une analyse lexicologique du texte coranique. Nous allons faire un petit exercice.
qui va évidemment vous apparaître un peu bizarre, c'est d'entre vous qui n'avez jamais fait de linguistique. Qui a fait de la linguistique? Qui fait des études de linguistique? De linguistique. Seulement deux. Qu'est-ce que c'est que ça, la linguistique?
Philologie.
La linguistique n'est pas de la philologie.
Non,
oui, alors, ils étaient tous normalement des étudiants en langue arabe. Alors, je vous ai déjà dit, et je vous le répète, et je vous le répéterai tout le temps, que l'on ne peut pas faire une distance de langue d'une langue sans, en même temps, faire des études de linguistique, puisque la linguistique, c'est la science spécialisée pour étudier les langues en général. Alors, faire des études arabes ne veut pas dire simplement acquérir du vocabulaire arabe pour baragouiner la langue arabe et écrire tant bien que mal en langue arabe. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas uniquement cela. C'est traiter scientifiquement la langue arabe aussi. Et pour traiter scientifiquement la langue arabe, bien, la seule voie possible, c'est d'acquérir l'instrument d'analyse des langues, d'étude des langues, qui est la linguistique. Alors, la linguistique nous apprend, outre l'analyse des fonctionnements, des mécanismes grammaticaux de la langue, mieux que ne le fait la grammaire qui est purement normative et descriptive, la linguistique nous donne des explications. Pourquoi telle règle de syntaxe fonctionne de telle façon et non pas de telle autre? Elle ne vous contente pas de vous dire le sujet s'accorde de telle façon avec le verbe parce qu'il faut faire comme ça et puis c'est tout. Vous voyez, la linguistique. Ce qui est beaucoup plus important en linguistique, c'est que la linguistique vous apprend à analyser un discours, à analyser un texte. Comment fonctionne un discours? Du point de vue du sens, du point de vue de la sémantique. Et par exemple, ce que nous allons voir, vous avez vu le discours coranique, vous lisez n'importe quel discours coranique. Comme je vous l'ai dit, vous êtes surpris par ce désordre, on ne sait pas par qui pour le prendre, les idées ne s'enchaînent pas, etc. Ben vous allez voir que si on fait l'analyse du texte coranique par la méthode lexicologique, c'est-à-dire par l'analyse du vocabulaire coranique et des relations de sens que les mots entretiennent entre eux à l'intérieur du discours coranique, à ce moment-là, nous allons découvrir une unité profonde qui est une unité sémantique. Alors, vous avez promis une analyse, par exemple, du mot mal. Le mot mal dans le Coran. Ben, le mot mal dans le Coran, je peux écrire en arabe? Non, mais il y en a peut-être qui ne sont pas encore familiarisés, ça va. Tout le monde, bon. Voilà, mon point de départ, c'est le mot mal. Le mot mal dans le corps. Je vous rappelle que ce mot, je ne peux pas l'analyser uniquement dans un seul contexte, c'est-à-dire uniquement dans la sourate Nisa, que nous avons vue et dans laquelle il intervient déjà un certain nombre de fois. Il faut que je sache tous les emplois du mot mal dans tout le corpus coranique. Ça, c'est la première chose. C'est la première règle. Si je veux savoir comment un mot fonctionne dans un corpus, qu'est-ce que c'est qu'un corpus? C'est un ensemble d'énoncés qui appartiennent au même auteur, au même producteur, donc à la même région sémantique. Un livre, ça fait un corpus. Il est fait par un auteur à un moment donné. Ça fait un tout qui fonctionne en tant que tout. Eh bien, si je veux savoir comment fonctionne le mot mal dans le Coran, la première chose, c'est de faire l'inventaire de tous les emplois de ce mot dans la totalité du corpus. Et je vous ai dit, je crois, l'année dernière, que le mot mal intervient en tout 86 fois. Il est employé 86 fois dans le Coran. Je dois donc me reporter pour analyser le fonctionnement de ce mot à 86 contextes. Il faut que je lise l'entourage du mot mal, là où il intervient. Et quand je lis les 86 contextes, je suis amené à reconstituer un réseau lexicologique. Un réseau, c'est un ensemble où il y a des relations, il y a des liens, et où tout est relié. Et ce réseau va se présenter de la manière suivante. Il faut vous dépêcher, hein, au lieu de bavarder.
J'ai oublié, elle est qui ?
Où ça va ?
Là, avec un petit...
Non, c'est la racine, j'écris seulement la racine. Hop. Ça y est ? Alors, prenez tous les mots. Hein. Parce que chaque mot représente une relation importante. Deuxième ligne. Volm. Volm. Fas. Fas. Musrif. Israf. Je relirai le tout après. Je reprendrai tous ces mots pour vous les expliquer. Bon, ça y est, je peux commencer. Bien. Alors d'abord, la première chose que nous pouvons remarquer, vous pouvez d'ailleurs la remarquer vous-même avant même que je vous le dise, qu'est-ce qui vous frappe dans cette représentation ?
La symétrie. Le bien et le mal. Non, le mal est au centre.
Comment ?
C'est que le mot mal est au centre.
Oui, il est au centre parce que c'est celui que j'étudie. Parce que j'aurais très bien pu prendre, par exemple, n'importe lequel de ces mots, je peux prendre par exemple Yassal et puis en faire une étude. Il se trouve que mon étude est centrée sur mal. Le mal est au milieu, c'est tout. Ça ne veut pas dire que mal est au centre de tout.
Il y a deux interprétations pour le mot mal, avant l'islam et à l'époque de l'islam.
Non. Non, pas du tout, parce que ça, c'est le Coran, c'est le corpus coranique que nous avons là. C'est une projection du texte coranique, du discours coranique. Ça, c'est une projection sur le tableau. Alors, ce qui frappe par la représentation, il y a quand même des choses qui frappent. Comment ?
Contradiction entre les aspects qui déterminent la l'utilisation du même.
Oui, avant de vous intéresser au sens des mots, regardez la forme de la représentation.
On a une gauche et une droite. Un côté positif, un côté négatif.
Oui, un côté positif et un côté négatif, mais...
La symétrie est entre
les... Pourquoi est-ce que j'ai fait des ronds ?
Non,
ça tourne.
Et deux entités pour...
Pourquoi est-ce que j'aurais pu faire des cercles ? Pourquoi j'aurais pu laisser les mots comme ça en l'air ? Pourquoi faire des ronds ? Comment ?
Ça constitue un ensemble.
Chaque groupe de mots, bien que c'est le bien, le mal, et chaque groupe enferme...
C'est un ensemble.
C'est pour marquer si tout signifie dans une représentation. Le cercle signifie l'enfermement. C'est l'enfermement et la cohésion intérieure. À l'intérieur de chaque cercle, il y a une cohésion. À l'intérieur de chaque cercle, il y a des relations. Et on est enfermé dans ces relations.
Voilà le symbolisme du cercle. Ça n'est pas pour faire bien ou par hasard comme ça que j'ai fait un cercle. C'est pour signifier quelque chose. Et nous allons voir en quoi on est enfermé dans une des deux conditions. Chaque cercle représente une condition psychologique et une condition existentielle. Une manière pour l'homme d'exister. Voilà ce que signifie le cercle. Il y a deux manières d'exister. Il y a deux psychologies, deux organisations psychologiques. Et par conséquent, deux types de conduite, et par conséquent, deux visions du monde, deux modes de signification, etc. C'est tout cela que représente le symbolisme du cercle dans toute la philosophie médiévale. Chez les Grecs, comme chez les chrétiens, comme chez les musulmans, le cercle représente un tout. Le cercle est la sphère. C'est un mode de représentation. Voilà déjà une chose, ça c'est formel. C'est la présentation formelle là, que je vous ai donnée et qu'il faut dès l'abord remarquer. Bien, maintenant, ce que nous pouvons remarquer, c'est ce sont des relations entre ces deux modes d'exister. Il y a deux flèches qui partent de mal. Lorsque j'étudie, je vous dis, je n'ai pas le temps de vous dire tous les versets où intervient le mot mal. Tout ceci est tiré des versets où le mot mal intervient. Vous pouvez les relire, comme je vous ai dit, et contrôler. Ça n'est pas une invention. C'est une étude minutieuse des textes, des énoncés. Et c'est comme ça que procède l'analyse linguistique du discours. Ce ne sont pas des approximations et des sens approximatifs. C'est fondé sur une analyse statistique précise. Bien. Alors nous avons, d'après le vocabulaire coranique, un symbolisme, un deuxième symbolisme. Ahlu Shimal et Ahlu Yamin. Ahlu Shimal et Ahlu Yamin. C'est-à-dire ceux qui se situent à la droite du Seigneur et ceux qui se situent à la gauche. La gauche et la droite, dans le symbolisme, le vieux symbolisme sémitique, aussi bien biblique que coranique, la gauche représente le mal et la droite représente le bien. Ceux qui ont le salut seront à la droite du Seigneur dans l'autre monde. Donc nous avons d'un côté le symbolisme de la droite, ceux qui sont à la droite, et le symbolisme de la gauche. Bien. Alors il y a deux manières d'user du mal. Le mal, c'est ce qu'on a. Ce sont, comme je vous ai dit, les enfants, les propriétés, les chameaux, les bijoux, enfin tout ce qu'on peut posséder. C'est ça, c'est le mal, l'avoir. Alors il y a deux positions devant ces possessions. L'homme, d'après ce que dit le Coran, le discours coranique, peut avoir deux positions. Il peut se situer du côté de ce que le Coran recommande comme étant l'attitude orientée vers le salut, najat, sa'ada fil akhira wa fi hadhihi dunya. Alors on vous dit, si vous désirez vous orienter vers le Seigneur, il faut pratiquer tout ce que contiennent ces mots-là. Alors nous allons les expliquer et nous allons voir que l'ensemble de ce vocabulaire définit une somme d'attitudes intellectuelles et éthiques qui font que le mot mal est affecté d'un signe positif. Le mal est utilisé avec des intentions précises qui sont, nous allons le voir, des intentions éthiques et religieuses et non pas des intentions économiques comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ce tableau, évidemment, il faut complètement le changer. Il faut mettre ici le mot mal d'après, si on fait une analyse économique,
aujourd'hui. Non, non, il faut mettre ici production et productivité, bénéfice, profit. En analyse économique aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, du côté du moins, il faut mettre faillite, inflation, perte, liquidation judiciaire, ce que vous voudrez. Catastrophe économique, on n'a plus rien à bouffer. Eh bien non, dans le Coran, rien de tout ceci n'intervient. La notion de profit, elle existe bien sûr, mais elle est traitée selon un langage exclusivement religieux et une symbolique religieuse. Alors quelle est cette symbolique? Nous avons ici, dans cette direction, donc si nous usons des biens dans cette direction, nous avons les mots hadi et haq. El-Huda, c'est la conduite droite. Allahu yahdi man yasha'u wa yughillu man yasha'u. Autrement dit, nous avons la possibilité de nous conduire selon la hidayah, c'est-à-dire les instructions, les commandements, les prescriptions que Dieu définit dans le corps. Et ces instructions, ces recommandements, etc., représentent le haq, c'est-à-dire la vérité, selon la définition coranique. Nous sommes en train de faire une analyse linguistique et non pas une analyse théologique, je vous le rappelle. Et cette hidayah, cette conduite de Dieu, cette lumière que Dieu donne aux hommes pour pouvoir se conduire selon la vérité, se traduit par quoi? Alors nous avons un certain nombre de concepts. Tous ces mots-là sont des concepts, c'est-à-dire qu'ils représentent eux-mêmes des notions très très larges et qui demande elle-même à être analysée. Alors la première, évidemment, c'est l'islam. L'islam, qu'est-ce que c'est?
C'est soumettre. C'est croire en l'existence de Dieu et en la prophétie de Mohammed.
Ça, c'est une définition théologique, traditionnelle.
Oui, c'est ce que je veux dire.
Oui, ben, ça ne nous intéresse pas.
L'islam d'après l'islam.
Je demande une définition linguistique et non pas une définition théologique.
Se rendre.
Oui.
Reconnaître.
Le mot islam, le mot aslama yuslimu, aslama nafsahu, c'est faire don de soi. Faire don de soi. Dans un combat, lorsque le bédouin allait au combat, yuslimu nafsahu lil qital, ça veut dire qu'il fait don de sa vie pour une cause qui le dépasse. Voilà, là, nous voulons des définitions linguistiques. Nous ne voulons pas des définitions théologiques, parce qu'elles sont subjectives, les définitions théologiques. Alors, l'islam, c'est faire don de soi. Et en l'occurrence, faire don de soi, aussi bien pour défendre dans un combat la cause de Dieu, et c'est ce qu'a fait le prophète à Badr, à Uhud, dans les batailles que le prophète a soutenues. Il a fallu que les gens fissent don de leur vie dans le combat pour Dieu. Donc le mot islam a conservé son sens normal chez les bédouins de ce temps-là. Et en plus, il a acquis le sens de faire don de soi en tant qu'être doué d'intelligence, en tant qu'être pensant, c'est-à-dire accepter les propositions religieuses, éthiques que le Coran propose. Les accepter, c'est donc s'y soumettre, intellectuellement parlant. Et c'est l'islam au sens propre, au sens d'acquiescement de l'esprit à des propositions qui lui sont présenté. C'est cela l'islam. Bien sûr, nous retenons l'islam, bon, c'est les musulmans, ils vont à la prière, la mosquée, tout ça, tous ces machins extérieurs, voilà l'islam. Ben non. Ceci n'est pas une analyse, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la langue arabe, il ne s'agit pas de baragouiner.
Il s'agit d'analyser et de savoir que signifient exactement les mots. Voilà pourquoi, après l'islam, j'ai mis immédiatement tasdiq. Sabdaqa, yusabdiqu, tasdiq, c'est-à-dire déclarer un énoncé comme véridique, adhérer à la véridicité d'un énoncé. Tasdiq, c'est la véridicité. Ça vous fait rire parce que c'est un mot que vous n'entendez pas souvent, c'est ça? Non? Vous ne l'avez jamais entendu? Mademoiselle. Si? Et pourquoi vous riez? C'est nerveux? Ou si vous voulez encore, on peut traduire donner son assentiment. Donner son assentiment à une proposition ou à une doctrine, à un enseignement. Tasdiq. Matalan, tasdiq al-risala. Tasdiq al-risalati Muhammad. C'est-à-dire déclarer la mission de Muhammad comme véridique et non pas mensongère. Et vous voyez l'opposition des deux parties. Ici, islam et tasdiq. Ici, nous avons bari et parir. C'est-à-dire affirmer son arrogance, sa toute-puissance égoïste, son autonomie dans le refus. On s'oppose à ce qui vous est proposé. C'est exactement le contraire de islam. Para. Para, c'est sentir toute sa puissance autonome et par conséquent refuser d'adhérer à ce qui vous est proposé. Et refuser en comptant seulement sur sa puissance personnelle, sa capacité personnelle de décision. Et j'aurais dû le mettre ici. Takdib, ça s'oppose exactement à tasdir. Vous voyez les oppositions, même dans le vocabulaire. Et donc ces mots vont par couple. Et ils interviennent toujours par couple dans le corps. Quand vous avez tasdir, vous avez takdib. Quand vous avez islam, vous avez bari, etc. Et takdib, c'est déclarer mensonger, déclarer une prétention, une proposition mensongère. Takdib al-risala wa tasdiq al-risala wa hunaka man yukadhib al-risala wa man yusaddiq al-risala. Alors si vous refusez la risala, bien entendu vous allez user des biens d'une toute autre manière, parce que à ce moment là vous usez des biens selon vos propres règles. C'est vous qui faites les règles, vous n'acceptez pas les règles de quelqu'un d'autre. Tandis qu'ici, on accepte les règles qui vous sont données par quelqu'un d'autre. Il se trouve que ce quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Alors, avec ces notions-là, vous avez les notions de choukr, ikhlas, choukr. Marque la relation de gratitude. La relation de gratitude de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et le choukr, c'est l'action de grâce que l'homme fait dans ses prières pour reconnaître les bienfaits de Dieu. An'ama Allahu 'ala al-insan, fal-insan yashkuru Allah 'ala ni'matihi. An-ni'ma. An-ni'ma, c'est le bienfait, le don de Dieu aux hommes. Et c'est parce que il y a la relation de choukr entre l'homme et Dieu que l'homme pratique l'islam et pratique le tasdiq et accepte par conséquent de recevoir des règles dans sa conduite vis-à-vis du mal. Et parmi ces règles de conduite qui lui sont énoncées, nous avons en particulier les règles de adl et qist. Al-adl, c'est-à-dire des règles de justice, d'équité. Al-qist, l'équité. Aqim al-wazna bil-qist. Et la justice et l'équité, quand on les pratique, correspondent ou traduisent des attitudes que l'on nomme al-bir, le bien,
le bien, le bir, le bien, l'ihsan, la bonté, ou le ma'rouf, c'est ce qui est, non, le ma'rouf, c'est ce qui est reconnu, déclaré comme bien, unanimement reconnu comme bien. C'est un synonyme donc de bir. De même, nous avons d'autres notions qui s'ajoutent et qui sont contenues dans les attitudes de justice, de bien, etc. C'est le taqwa, la crainte respectueuse, le taqwa, le scrupule que l'homme a vis-à-vis de tout ce qui a trait au bien. Lorsqu'il a à prendre une décision quelconque en ce qui concerne les possessions, l'homme cultive le scrupule. Le scrupule de quoi ? Le scrupule de tomber dans l'injustice, de manquer la justice. Il s'interroge sur sa décision. S'il s'agit par exemple de conserver les biens d'un orphelin, comme nous l'avons vu dans la sourate Nisa, où la sourate dit « Faites bien attention aux biens des orphelins, il faut les gérer avec justice et ne pas les manger avant que les orphelins deviennent des adultes pour leur rendre leur propre bien », eh bien, ceci se traduit par « taqwa », c'est-à-dire l'attitude scrupuleuse vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des décisions que l'on prend. L'attitude de « khawf », c'est la crainte aussi, mais la crainte cette fois-ci pour son salut. Car toute décision d'injustice, toute conduite d'injustice est sanctionnée du point de vue religieux, elle est sanctionnée par le mot que j'ai marqué ici, mais il y en a d'autres. Je n'ai pas donné tous les mots parce que tout le vocabulaire coranique pourrait y passer. Nar. Nar, c'est la sanction de tout manquement au devoir de justice. Et par conséquent, on a la crainte de devoir tomber dans le péché. Le péché qui est là-bas, haram. Alors que ici, nous avons le halal, ce qui est licite, ce qui est reconnu par cet ensemble de relations. Vous voyez comment ces relations forment un ensemble entre elles, sont liées entre elles. Et c'est pourquoi je vous ai dit, on les représente à l'intérieur d'un cercle. Alors, tout cet ensemble-là définit ce que l'on appelle l'Iman. L'Iman, c'est-à-dire la foi. Et l'Iman est une attitude qui s'oppose rigoureusement à Kufr. Le Kufr, c'est le refus. On peut le traduire par le refus. Le refus de la relation avec Dieu. Ici, c'est l'acceptation de la relation avec Dieu, et de l'autre côté, c'est le refus délibéré de cette relation. On traduit par infidèle. Infidèle veut dire infidèle à quoi ? Infidèle à Dieu, ça n'est pas assez précis. Al-kafir billah, al-kufru billah. C'est l'infidélité à Dieu, mais pourquoi ? C'est l'infidélité qui est le refus de pratiquer le choukr.
L'ingratitude, ça ?
Oui, c'est l'ingratitude, exactement. En termes courants, humains, c'est l'ingratitude. Mais l'ingratitude, justement, on n'ose pas l'employer parce que c'est le fils qui est ingrat vis-à-vis de je ne sais quoi, son père ou sa mère. Tandis qu'ici, c'est une relation qui n'est pas seulement une relation éthique, c'est une relation métaphysique. Rappelez-vous ce que je vous avais dit sur le mot mithaq. Qui est un des mots centraux du Coran et de l'enseignement coranique. Qu'est-ce que c'est que le mithaq ? Mithaq est un mot qui est formé sur la racine Wathaqa yathiqu, c'est-à-dire avoir foi en quelqu'un.
placer sa foi en quelqu'un, placer sa confiance en quelqu'un. Et le mitak, c'est une relation de confiance, un pacte fondé sur la confiance réciproque. Et le mitak, c'est le pacte de confiance réciproque, le pacte d'alliance fondé sur la foi entre la créature et le créateur. Al-Khaliq ou al-Makhlouq. Voilà, tout ceci, c'est le fonctionnement du langage coranique. C'est le vocabulaire coranique. Et alors, on a deux attitudes vis-à-vis du mitak. On signe un pacte. Nous, par exemple, on peut signer un pacte. Ben, on est lié par le pacte si nous l'avons signé. Nous signons un pacte, par exemple, qu'en juin, vous passez tous l'examen et vous serez tous reçus.
C'est gentil.
On peut signer un pacte comme cela. Alors, si l'un de vous n'est pas reçu, ben, ça veut dire que le pacte n'a pas été respecté.
De la part de qui?
Ne cherchons pas de la part de qui. Alors ici, de la même façon, c'est un pacte évidemment qui n'a pas été signé, puisque l'homme ne peut pas voir Dieu, il n'en est pas question, mais c'est un langage religieux, c'est-à-dire symbolique, pour marquer une relation de type métaphysique, puisque elle n'est pas intervenue dans une histoire contre l'homme humain. C'est une notion métaphysique. Alors, le coufre, c'est la rupture du mitak. Et le refus, par conséquent, de respecter le mitak. Voyez comment il faut définir les notions telles qu'elles fonctionnent. Et non pas à peu près un infidèle comme ça. Un fidèle, il va en enfer, ou l'infidèle, c'est celui qui n'est pas musulman par rapport aux musulmans, celui qui n'est pas chrétien par rapport aux chrétiens, celui qui n'est pas juif par rapport aux juifs, etc. C'est une définition polémique. Alors qu'ici, vous voyez, nous donnons des définitions que nous extrayons du fonctionnement sémantique des termes employés par le Coran lui-même. Je ne sais pas si vous voyez l'intérêt de cette analyse ou pas. Il est possible que vous ne le voyez pas, parce que je sens que vous n'êtes pas très familier avec ce type d'analyse. Donc si nous passons ici, nous trouvons, comme je vous l'ai dit, des oppositions terme à terme par rapport à tous les termes que nous avons trouvés là-bas. Donc à Iman, nous avons le couple qui s'oppose, et puis je vous ai déjà dit le Bari, Paille, Volm, Fesr, qui veut dire faire le mal, se conduire dans le mal. Israf, c'est la conduite arbitraire, excessive. Le Tekvir qui s'oppose à Tosdir. Ulou, Ala, c'est l'orgueil, l'enflure de soi. Le Ulou. Oui, c'est-à-dire. Oui, c'est se placer au-dessus, l'orgueil. El-Jadal, c'est la controverse, la dialectique pour quoi faire? Pour refuser tout ce qui est proposé, pour discuter, contester tout ce qui est proposé dans cette partie-là. Et ça va donc avec ces trois notions vont ensemble. Équilibre, Elo, c'est se déclarer trop au-dessus de ses ornettes. Donc, ne pas y croire,